Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà, 21h02, le retour de Tech & Co, la quotidienne, et j'accueille avec plaisir Erwan Montaut sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Vous êtes le nouveau président d'Intel France, enfin quand je dis nouveau, ça fait un an que vous êtes à ce poste-là.
Oui, environ.
Voilà. Voilà, en tout cas on est très heureux de vous accueillir. Intel, bien évidemment, fondeur que l'on connaît, qui nourrit nos produits électroniques depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais qui est un peu malmené malgré tout, il faut le dire, hein, Erwan, par de nouveaux entrants, des Nvidia qui sont là et qui prennent le leadership sur l'intelligence artificielle, qui est véritablement aujourd'hui cette puissance de calcul qui est à la mode. Et puis il y a là d'autres concurrents, hein, qui sont là. Il y a évidemment Qualcomm, il y a aussi certains géants de l'informatique, hein, de la tech, qui veulent se lancer. Microsoft veut fabriquer ses propres processeurs. Il y a aussi Amazon, enfin bref, tout le monde s'y met, même Meta qui a annoncé ça, je crois, aujourd'hui, qui voulait fabriquer eux-mêmes leurs propres processeurs. Est-ce que Intel est un petit peu, on va dire, tourneboulé par tout ce qui se passe aujourd'hui avec cette intelligence artificielle?
En fait, on a une stratégie sur l'intelligence artificielle qui repose sur deux piliers. Le premier pilier, qui est plus sur les produits. On veut et on souhaite amener des fondations qui soient à la fois matérielles et logicielles pour que l'IA soit partout. Et on va le faire avec un écosystème ouvert également. C'est très important pour ne pas être dans un environnement propriétaire. Et donc, on va développer des produits qui sont 100% dédiés à l'IA, des accélérateurs d'IA comme Intel Gaudi 3, dont on a fait l'annonce hier.
Que vous avez présenté à l'Intel Vision.
Exactement. Et dont les résultats sont extrêmement prometteurs. Nous avons des GPU également, mais il faut aussi mettre de l'IA partout. Et donc, on a les Xeon, qui sont nos processeurs de référence qu'on va retrouver dans les serveurs, dans les data centers. Toutes les entreprises n'ont pas la capacité à avoir des solutions qui sont 100% dédiées à l'IA et doivent faire plusieurs choses. Donc on a des accélérateurs dans nos Xeon également qui vont permettre de traiter de l'IA. Et enfin, on a lancé l'année dernière les PC d'intelligence artificielle avec les Core Ultra qui sont nos produits. Et là, on va avoir un NPU, un Neural Processor Unit, qui va être en plus du CPU et des GPU pour pouvoir faire de l'IA. Donc c'est vraiment amener de l'IA partout sur l'ensemble des produits avec des couches logicielles ouvertes. Et le deuxième pilier, c'est notre métier de fondeur. On amène nos capacités de production et nos technologies les plus avancées pour des acteurs que vous mentionniez tout à l'heure, qui sont faiblesses, qui n'ont pas ces capacités de production.
Oui, et là, on répond. Vous êtes pour eux des sous-traitants, en quelque sorte.
On amène le meilleur de la technologie pour qu'ils puissent fabriquer leurs solutions d'IA. Donc, en fait, avec ces deux piliers, on arrive à répondre à 100% des besoins d'IA aujourd'hui sur le marché.
Est-ce que vous n'avez pas raté quand même le virage du GPU? Alors là, on rentre dans des sujets très techniques, mais c'est un petit peu la stratégie que mène depuis des dizaines d'années maintenant Nvidia, et on se rend compte que le GPU, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le minage de crypto-monnaies, dans la voiture, mais aussi maintenant avec l'intelligence artificielle, c'était le bon cheval technologique pour accélérer en fait cette intelligence artificielle. Vous étiez plutôt sur les CPU. Est-ce que... La question aussi que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez envie de concurrencer Nvidia maintenant?
Alors, je vous parlais tout à l'heure de solutions dédiées à l'IA. Donc, Gaudi 3 que l'on a annoncé a des résultats extrêmement prometteurs. Parce que là, on parle surtout d'un environnement d'IA générative.
Oui.
Et nous avons des résultats qui sont extrêmement intéressants. Donc, sur l'entraînement, par exemple, Gaudi 3... sur du Llama 7B, Llama 13B, c'est pour milliards, en fait, c'est milliards de paramètres.
Billion.
Ou alors, exactement, billion, ou GPT-3, 175 milliards. Eh bien, sur l'entraînement des modèles, Gaudi 3 va 50% plus rapide que les GPU H100. Donc, ça dépend ce que l'on veut. Quand on veut faire de l'IA à 100%, c'est bien d'avoir des accélérateurs qui sont 100% dédiés à l'IA, comme Gaudi 3, et quand on veut utiliser de l'IA, mais entre autres choses, eh bien c'est bien d'avoir des accélérateurs introduits dans les produits qui existent déjà et qui sont capables de faire autre chose.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que, évidemment, la tech évolue. Il y a encore quelques années, il y avait vous et AMD, finalement, qui vous partagiez le marché des processeurs. Hein. Et puis aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres. Et il y a Grok aussi. Tiens, je voulais qu'on s'arrête deux secondes sur Grok, puisqu'on reçoit demain le patron de cette boîte qui est en train d'exploser, parce que, justement, elle fait de son business de la puissance de calcul. Demain, je recevrai Jonathan Ross dès 20h45 pour une interview exclusive de plus de 40 minutes sur toute sa stratégie dédiée à l'IA. On l'écoute justement sur le choix technologique qu'ils ont voulu faire et on revient avec vous, Erwan, juste après.
Généralement, lorsque l'on utilise l'un de ces modèles LLM, on attend longtemps pour avoir sa réponse. Et c'est un petit peu comme à l'époque, vous vous rappelez peut-être ces bruits horribles que l'on faisait avec les modems 56K, et on a un peu l'impression que c'est cela quand on utilise l'IA maintenant, ça prend une éternité. Et ce que l'on fait, on fait arriver le haut débit dans les LLM pour tout le monde. Donc on ne crée pas les modèles. On prend des modèles open source que d'autres ont créés, on les met dans notre matériel et on les fait tourner très très vite. La différence est que c'est beaucoup plus naturel. C'est presque comme quand on fait une recherche ou qu'on utilise un ordinateur et qu'on a une réponse rapide. Ce que cela fait, c'est que cela améliore l'usage, l'engagement avec l'utilisation. Tout ce qui est rapide, on l'utilise plus, c'est plus facile, la charge cognitive est moindre. Et quand on utilise un ordinateur, généralement, on n'attend pas qu'une page se charge, on ne la regarde pas comme ça. Les yeux vont dans tous les sens et l'on peut retrouver ce que l'on veut, et donc on peut commencer à poser des questions pour rebondir.
Voilà, interview de Jonathan Ross, ce sera demain dès 20h45 dans Tech & Co sur BFM Business. Tout ça pour dire que voilà, des startups aujourd'hui viennent concurrencer votre business finalement avec une rapidité d'exécution, c'est ça la force de Grok, par rapport à même Nvidia, ça bouge.
Il y a une effervescence incroyable, et par rapport au fait que ça vient concurrencer notre business, ça vient concurrencer certaines solutions, mais encore une fois, Grok, comme tous ceux qui vont développer des solutions d'IA, ben, peuvent faire appel aussi à nous, les capacités de fonderie que l'on met en place avec les technologies les plus avancées. Le marché du semi-conducteur, c'est un peu plus de 500 milliards aujourd'hui. On pense que ça va plus que doubler d'ici à 2030. Donc c'est passer incroyable. À plus de 1000 milliards. Et notamment, un des vecteurs de cette accélération, c'est l'IA. Et ça ne cesse d'accélérer aujourd'hui. Donc il y a des besoins et on essaie d'y répondre avec ces deux pans de notre stratégie d'IA.
Autre sujet d'actualité qui nous rattrape, c'est bientôt, ça va être les Jeux Olympiques 2024. Vous êtes partenaire mondial des Jeux Olympiques, Intel.
Tout à fait.
Au-delà de l'impact médiatique que ça peut avoir pour vous, qu'est-ce que vous apportez concrètement? Quel est le partenariat technologique que vous avez avec les JO?
Alors, on a effectivement, on conçoit plus notre engagement sur les JO, sur ce que la technologie va amener aux JO, plus que sur de la communication pure. Et là, c'est fabuleux, parce qu'en fait, c'est un événement d'une portée hallucinante.
Planétaire.
Ce sont des milliards de téléspectateurs, des millions de fans qui seront sur place. C'est 15 000 athlètes, je pense, 20 000 journalistes. Et en fait, on va amener des cas d'usage basés sur de l'IA, puisque nous sommes partenaires mondial sur l'IA pour les Jeux Olympiques, basés sur l'IA pour la diffusion, par exemple. Faire de la diffusion en 8K sur d'événements sportifs en direct. Ça n'existe pas aujourd'hui, puisque c'est beaucoup trop important. Le flux d'informations est trop important.
Vous apportez une puissance de calcul grâce à l'IA qui va permettre la retransmission.
Donc l'IA embarquée sur l'Exeon, que je disais tout à l'heure, va encoder le flux vidéo et audio d'un rapport de 600 fois pour pouvoir l'amener juste au téléspectateur qui va décoder et qui va pouvoir voir du 8K. Et alors là, sur des épreuves, par exemple la natation, la texture de l'eau, les gouttes d'eau, les détails, c'est absolument phénoménal.
Bon, le problème, c'est que quasiment personne n'a une télé 8K. Mais déjà en 4K, c'est pas mal.
Alors, utiliser un PC avec les Core Ultra ou les Core de 14e génération, vous pourrez sans problème décoder le flux et l'avoir et après le mettre.
Mais je ne sais pas s'il existe des écrans avec une résolution 8K aujourd'hui sur des PC. C'est intéressant.
Oui. Et donc il y a des cas d'usage de CIPLA, il y a des sur le fait de créer de façon automatique et presque immédiate des résumés d'épreuves. Ça, c'est aussi possible grâce à l'IA. On l'a entraîné On a entraîné un modèle avec Getty, qui est une plateforme, sur une vingtaine d'épreuves passées, et sur des critères de type comment évolue le score, la réaction de la foule, ce qui se passe sur le terrain, eh bien, les diffuseurs vont pouvoir faire des résumés de journée, des résumés de sport spécifique ou même de joueurs à la demande, avec un prompt, en disant « Ah oui, je veux tel résumé, ça va être pratiquement
immédiat. » Et cette
interface
sera disponible pour tout le monde ?
Alors, c'est, on travaille avec OBS, qui est Olympic Broadcast Services, et qui va l'offrir aux différents diffuseurs comme un service pour pouvoir quelque chose de beaucoup plus spécifique.
C'est pas accessible au grand public, hein, c'est vraiment pour les professionnels.
Ah ben, le grand public va en bénéficier, parce finalement, nous, en tant que Français, combien de fois on entend des commentaires à la télé en disant « Ah, j'aurais bien aimé voir un peu plus de le résumé qui soit un peu plus centré sur tel... tel joueur français ou autre, là ça va pouvoir, on aura une capacité d'avoir des résumés ou des temps forts beaucoup plus importantes que ce qu'on avait précédemment.
Voilà, donc on goûtera à Intel pendant ces Jeux Olympiques 2024. J'aimerais qu'on revienne deux secondes sur le PC, parce que vous l'avez abordé assez brièvement, mais c'est vrai que même notre PC portable est en train de se métamorphoser grâce à l'intelligence artificielle. Vous êtes l'un des acteurs, puisque aujourd'hui, les dernières puces Intel, plutôt haut de gamme, de dernière génération, ont été taillées pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça apporte concrètement sur un PC d'avoir ces puces maintenant par rapport à un PC qui n'en a pas ?
Vous pourrez sur la création, par exemple, vidéo, réussir à créer des vidéos avec des contenus différents beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus intuitive et beaucoup plus fluide. Donc sur la création, sur le gaming, sur la communication et l'interaction avec les autres, il y a énormément de cas d'usage aujourd'hui qui viennent de l'IA et qu'on va retrouver dans les Core Ultra. On est extrêmement content du lancement des PC IA aujourd'hui sur le marché.
Et ils vont se généraliser, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans quelques mois ou quelques années, tous les PC portables seront équipés de ce type de puces.
Nos prévisions, c'est que on va avoir livré 40 millions de PC IA avec des capacités d'IA d'ici à la fin de l'année. Mm-hmm. 40 millions, c'est énorme, et 100 millions d'ici à 2025. Donc oui, ça se démocratise et ça arrive auprès de tout le monde.
J'ai l'impression que les constructeurs de PC retrouvent le sourire, hein, le marché du PC rebondit actuellement. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à ça, grâce à l'IA, ou est-ce qu'il y a un autre contexte, sociétal, saisonnier, qui fait que...
Il y a plusieurs choses, il y a des cycles. Effectivement, on se rééquipe. Il y a bien évidemment ces nouveaux usages qui vont accélérer le renouvellement ou l'envie. Mmh. Et puis, ce que ça nous permet de faire, in fine. Donc, tous ces éléments font que on est plutôt positif sur le marché du PC là, sur cette année et sur ce qu'on va amener grâce au PC d'IA.
Un mot sur le marché local français. Vous avez toujours été, Intel a toujours été très présent en France dans divers domaines. Malgré tout, on a appris une mauvaise nouvelle ces dernières semaines. Il semblerait que ce projet de centre de recherche européen de R&D que vous deviez installer en France est reporté. Alors, officiellement, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, vous, porte-parole d'Intel, concernant ce projet ? Est-ce qu'il est reporté ou est-ce qu'il est simplement annulé ?
Le projet est en pause. Tout simplement...
C'est pas bon signe.
C'est tout simplement parce qu'on donne priorité à un pan de notre stratégie qui est d'augmenter les capacités de production. Il y a une nécessité, une dépendance de l'économie de façon générale aux semi-conducteurs. On doit absolument augmenter les capacités de production. Donc on investit énormément dans des usines et on doit le faire aussi de façon mieux répartie géographiquement.
Mais la recherche est importante justement en ce moment, non ?
Tout à fait. Et on travaille l'autre pan, c'est donc avoir des capacités de production qui augmentent, mieux réparties géographiquement, et on les ouvre à tous. Et l'autre pan, c'est d'avoir des technologies les plus avancées. Et là aussi, on avance sur les technologies de transistors qu'on va utiliser. Et on avait mis en place cette stratégie de 5 nœuds différents, donc 5 évolutions sur 4 ans, là où on met 8 à 10 ans. Donc on donne la priorité sur ces éléments-là. Et sur les financiers, ça représente quand même 50 milliards d'investissements en Europe. Hein. Donc c'est très important. Donc on donne la priorité, c'est en pause pour l'instant, mais ce n'est pas...
Ce n'est pas annulé en tout cas. Bon, écoutez, peut-être qu'un jour on pourra vous recevoir pour reprendre ce beau projet de centre de R&D qui avait été annoncé par Intel l'année dernière.
Mais par ailleurs, nous faisons d'autres investissements en France aussi, donc on pourra en reparler une prochaine fois.
Bien volontiers, merci beaucoup.